RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time tous les lundis soirs, 21h, 22h sur RMC et RMC Sport News avec Stephen Brun, David Cosette, Frédéric Veil. Ça va, messieurs?
Salut, Pierre.
On est bien accompagnés aujourd'hui. Attention, attention, émission exceptionelle quand même. Là, on est un peu excité là, carrément. Evan Fournier et Axel Toupane sont avec nous pendant une heure. Bonjour, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va, Evan, on t'a eu au téléphone il n'y a pas longtemps, la liaison était un peu compliquée, là ça devrait bien se passer ce soir. Hein.
Ouais, j'étais en déplacement, la connexion n'était pas très bonne. Donc ça va, merci de me recevoir.
Axel, tranquille?
Ça va, nickel.
Axel, c'est fait quoi, sa petite coupe de cheveux, les waves.
Axel, tu sais que Stephen, t'es un des clients préférés de Stephen pour faire des jeux de mots chelous sur ton nom de famille, par exemple.
J'ai déjà entendu, ouais, j'ai entendu.
T'as
ça.
Déjà entendu?
Je crois que personne n'y échappe, hein, de toute façon, au jeu de mots.
Non, mais après,
Fournier,
ah, c'est dur.
Toi, t'es capable, hein. Je te fais confiance. Ouais. Hein. Alors, Evan et Axel, évidemment, on va beaucoup parler de votre actualité. Mais bien sûr, Buzzer Time, c'est tout le basket français. On a un quiz, hein, c'est traditionnel, à 21h30. Pour faire les équipes, je vous expliquerai comment ça marche. On va faire que deux équipes ce soir. On est cinq. Ça risque d'être un peu compliqué. Toute l'actu basket à 21h30. Donc, dans le 1 contre 1, les playoffs de la NBA, on se régale. Même toi, je suis sûr, David, tu te régales.
Bien sûr.
Hein?
Non, je te l'ai dit, je me régale en playoff, pas en saison régulière.
T'es pas un client de folie de la NBA en général.
Les boules là, ils ont énorme.
Et puis, bien sûr, on fera le point sur la situation de Axel, cette histoire incroyable quand même, l'Olympiakos. Moi, je crois que l'Olympiakos, c'était un monument du basket européen. Il paraît qu'ils payent pas leurs joueurs.
Tu peux être un monument sans filer des dollars. Hein.
Je pense que tu connais ça même pendant le foot. Hein.
Tu nous raconteras les coulisses de ce club un peu particulier. Il y a du direct ce soir, notamment avec la Ligue 2. On va suivre Lorient-Auxerre avec Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Salut Pierre. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. On joue depuis 17 minutes au Moustoir 0-0. Toujours entre Lorient et Auxerre, on va rappeler les enjeux du match. Lorient, quatrième de Ligue 2, a besoin d'une victoire pour assurer sa place de barragiste pour essayer de monter en Ligue 1. Auxerre a besoin de points parce qu'ils ne sont pas encore sauvés, les joueurs de la JO Auxerre. Auxerre qui domine ce début de match. Ils ont touché le poteau par Philippe Poteau il y a quelques minutes. 0-0, 18 minutes de jeu.
Alors voilà déjà par exemple une phrase qui fait réagir Stephen qui se demande comment il peut rebondir sur Philippe Poteau qui touche le poteau.
Ah non, c'est bah, la phrase en elle-même.
T'as deux minutes le temps qu'on finisse le sommaire. Et puis donc, il y a de la JP Elite. Monaco mène 24-14 face à Pau. Je vous rappelle que tous les lundis dans Buzzer Time et jusqu'au 24 juin, notre partenaire TCL vous offre une magnifique télé TCL Android Full HD 102 cm avec un abonnement d'un an à RMC Sport pour évidemment suivre tous les matchs de la JP Elite. Pour participer, c'est tout simple, vous envoyez Buzzer, BU2ZER par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
La JP Elite avec TCL, deuxième fabricant mondial de téléviseurs. RMC Buzzer Time. Buzzer Time. LeBron James with the rejection. Les news NBA.
Allez Evan, on va parler de ta saison avec Orlando puisque la dernière fois quand on s'est eu au téléphone, vous étiez encore en compétition. Depuis donc il y a eu cette série contre Toronto, ouais. Perdu 4-1. Ouais. Est-ce que la saison est réussie pour Orlando?
Je viens de me faire éliminer donc c'est dur de dire que oui c'est réussi. Après c'est clair que on a fait une deuxième partie de saison qui était vraiment très intéressante. On a réussi à ramener Orlando en playoff. Ça faisait depuis 7 ans qu'ils les avaient pas connus. C'est vrai que ça fait du bien de terminer une saison avec des playoffs, mais disons qu'on s'est pris deux branlées les deux derniers matchs et on termine par 4 défaites. Donc ça laisse un goût amer. Hein.
Alors quand vous gagnez le premier match à Toronto, qu'est-ce qui se passe dans votre tête là? Tout d'un coup, vous dites tout est possible?
Non, mais quand tu commences la série, t'y crois. Moi, enfin, je pensais vraiment qu'on était capable de les battre. Après. Le tournant de la série, c'était vraiment le match 3 où on perd 2-3 points dans les dernières secondes. Si on passe à 2-1, je pense que c'est une série différente. Et donc le fait qu'ils prennent un match à la maison, derrière le match 4, ça nous a mis un coup au moral et on n'a pas su rebondir. Et après, limite, la série était finie et c'est dommage. Mais en fait, j'ai envie de dire que t'as senti leur expérience parce que tout au long de la série, Toronto a vraiment progressé. Et nous, on est resté un peu au même niveau et c'est là où tu vois que des joueurs comme Kyrie, Kawhi, etc. Ils ont beaucoup beaucoup de matchs de playoff. Et mais voilà, après ça reste une expérience positive pour nous. On est un jeune groupe qui n'avait rien connu encore en tant qu'équipe, et donc ça va nous servir pour le futur, c'est sûr.
J'ai l'impression que t'as presque des regrets.
Bah ouais, 4-1 c'est relou bien sûr, surtout quand
surtout quand tu gagnes le premier quoi,
c'est bah ouais, ça. Voilà, c'est chiant quoi, surtout que Toronto c'est une équipe qu'on avait très bien joué en saison régulière. Alors ouais, après on va m'expliquer que la saison régulière
c'est il y a eu deux partout en saison régulière.
De partout, c'est ça. Non, et puis voilà, c'est vraiment de savoir que après les matchs, il faut les avoir regardés, mais c'est qu'on leur a donné beaucoup trop de choses qui leur ont permis d'être forts contre nous, et nous on est passé au travers. Moi je suis passé un peu au travers, Vooch aussi. Et voilà, et donc ils ont fait du bon boulot, et nous on a pas su rebondir derrière.
Non, bah, il en a parlé, Nikola Vucevic qui a été éteint, si je peux me permettre. Justement, tu parlais d'expérience des Raptors, Marc Gasol, Serge Ibaka, ouais, Pascal Siakam, ouais. Ils étaient en mission sur Nikola Vucevic qui avait un statut d'All-Star aussi, donc était peut-être le go-to guy de l'équipe avec toi, et il est passé un petit peu en travers de cette série. Non,
disons qu'ils ont vraiment fait du bon boulot défensif sur ils ont vraiment cerné ce qu'on faisait bien, et ils ont réussi à vraiment à nous couper de ça en fait, et donc ça nous a vraiment déstabilisé. Premier match s'est passé
grâce à un grand DJ,
ouais. Mais justement, en fait, c'est-à-dire que premier match, ils l'ont laissé jouer.
Ils le laissent, ouais.
Limite, ils l'ont laissé jouer. Il les a fait payer, clairement. Et derrière, ils ont fait les ajustements et on se retrouvait avec plus beaucoup d'options, quoi. On se retrouvait avec plus beaucoup d'options et du coup, on se retrouvait à faire un basket dont on n'avait pas l'habitude de faire. Nous, on est une équipe qui vraiment joue beaucoup à l'intérieur. Là, on était constamment sur le périmètre. On perdait beaucoup de balles alors qu'on est très fort sur la possession de balles. Et ouais, c'est exactement ça. Ils nous ont vraiment fait déjouer. Donc voilà, faut leur donner du crédit. Ils ont bien joué. Et nous, faut qu'on apprenne
tout
ça.
Et puis ils continuent à bien jouer, hein, apparemment.
Ouais, ouais. Non, mais sincèrement, ils sont forts. Kawhi, c'est un cyborg, le mec.
Non, c'est vrai. Plus que Kevin Durant.
Après, quand je dis cyborg, c'est vraiment c'est physiquement quoi. Il est monstrueux. Enfin, c'est ça n'a rien à voir avec Kevin Durant. C'est vraiment le talent inné. Le mec qui fait 2m10.
C'était en match-up face à Kawhi.
Sur sa scène séance de post-op, j'ai pris sur le chest, je me suis battu. Mais non, franchement, ils sont très forts et ils ont un banc qui est très performant. Pascal Siakam, c'est vraiment la révélation de la saison, MIP à mon avis.
Et Van Vliet aussi qui est pas mal.
Van Vliet qui est très bon. Mais pour moi, vraiment, ce qui a changé leur équipe, parce qu'on les avait pas joués comme ça en saison régulière, c'est Marc Gasol, il a changé leur équipe. Il te fout Serge sur le banc. Il te ramène une vraie position intérieure dans leur 5 majeur avec de la passe, de la défense, et ça change leur équipe.
Evan Fournier dans Buzzer Time sur RMC. C'est quoi la marge de progression d'une franchise comme Orlando? Comment tu vois le court terme?
Ah bah, on peut énormément progresser. Déjà, si on regarde juste nos 30 derniers matchs, on est à 21-9.
Ouais.
Déjà sur
la fin de saison.
Depuis que Kim Birch est passé deuxième intérieur parce que Mobamba s'est blessé, qu'on a recruté Michael Carter Williams, on a décollé juste avec ces deux joueurs-là. On a commencé à vraiment intégrer le système de coach Clifford. Donc juste avec ça, on a vraiment progressé. Donc si on recommence une saison comme ça, ce sera clairement différent. Et après, Markel Fultz, je sais pas ce qu'il va donner.
On va voir. Il est rétabli. Et Paul Guéry?
Je sais pas. Je sais pas, mais ça peut être intéressant.
Numéro 1 de la draft, on l'a.
Ouais. Avec Philadelphie, mais qui a pas joué. C'est ça, toute sa première année de, l'année de sa draft, il n'a pas pu jouer pour cause de blessure.
Ouais.
Là, il y a toujours un point d'interrogation sur ce genre de profil.
Est-ce qu'il y a pour but de ramener un autre gros poisson?
Non, je pense pas. De toute façon,
Vooch,
je pense qu'il faut qu'on re-signe Vooch et Terrence. De toute façon, je pense pas que qu'on soit dans une position où on est extrêmement attractif. Je pense qu'on est sexy parce que la Floride il fait chaud.
Ouais.
Mais je pense pas qu'on soit une très grosse destination encore.
Puis peut-être que faire les playoffs aussi, ça peut aussi donner un intérêt à.
Clairement. Mais après, on a une équipe sympa. Après, faudra qu'on progresse de l'intérieur. On a des jeunes joueurs. Je pense à Mobamba, je pense à Isaac. Même des joueurs comme vous de chez moi, faut qu'on fasse mieux sur les playoffs. Voilà, on a beaucoup d'espace pour s'améliorer et faut qu'on commence par individuellement progresser. Voilà.
Tiens, parle-nous un peu de ça, Evan, parce qu'on se rend pas forcément compte. Vu d'Europe, la NBA, c'est des noms de franchises. Quelle est la position d'Orlando vis-à-vis de Miami? Miami, c'est une franchise quand même qui a un nom assez clinquant, qui a un titre assez récent. Est-ce que vous êtes dans l'ombre de Miami ou alors est-ce qu'aux États-Unis ça se passe pas vraiment comme ça?
Mais nous, on les déteste. Moi, je les déteste, Miami. Je peux pas. Je peux pas les blairer, Miami. Je peux pas blairer les fans de Miami.
Les fans de
Miami. Non, pour de vrai.
Parce que
quelque chose quand t'arrives au club, on te parle de.
Non, pas du tout. Non. Après, genre dès que c'est le derby, bien sûr que tu sens que les gens sont excités et tu reçois plus de messages. Les fans ils sont plus involved, etc. En plus, moi, quand je suis arrivé, c'était l'époque où LeBron venait de partir, donc c'était un truc de fou. Mais clairement.
Et toi, pourquoi tu les détestes tant que ça? Il y a eu des histoires ou c'est...
Non, mais c'est que déjà, on les joue tout le temps le premier match de la saison. On se bat tout le temps contre eux. Là, limite cette année, c'était eux qui faisaient les playoffs ou alors nous. Donc voilà, il y a toujours une rivalité. Dès qu'on joue Miami dans la salle, la moitié de la salle, c'est des fans de Miami. Et voilà.
Tu veux dire chez vous à Orlando?
Chez nous. Chez
ah oui,
nous,
ça
nous.
Ça fout les boules.
Je déteste pas D-Way quand même.
Non, bah non. Non, bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est ouais, tu sais, des équipes comme ça, tu quand t'arrives dans un club et que tu connais son histoire et qu'il y a des derbies, bah tu te mets. Après, moi, je suis comme ça. Moi, quand je joue contre quelqu'un, la personne qui est en face de moi, je l'aime pas de base déjà.
C'est un peu comme Stephen en fait.
Non, mais voilà.
Si jamais vous êtes pas dans la même équipe tout à l'heure pour l'un contrat, ça peut mal finir. Quoi.
Donc voilà. Après, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais.
Alors justement, je sais pas s'il y a d'autres rivalités comme ça en termes de proximité géographique. Oui, forcément avec les Nets et New York, mais par bien, exemple. Oui. Mais comment tu définirais la relation Orlando-Miami? Comment tu définirais cette rivalité?
Ah, les fans, ça chambre, ouais. Franchement, c'est pas comme certaines franchises, hein, comme Boston et Lakers, etc. Mais c'est
historiquement une rivalité de entre deux top équipes. Quoi.
Ouais, mais ça reste une vraie rivalité. C'est juste que le Magic ces dernières années ont été pas performants. Du coup, personne n'y prend attention. Mais les années avec Dwight, etc., etc., ça balançait. Ouais.
Est-ce que ça c'est propre aux joueurs européens ou les Américains sont comme ça aussi? Parce que c'est un système où tu choisis pas vraiment ton club, comme en Europe où tu peux avoir un peu, un amoureux du Real va peut-être jamais signer au Barça. Alors c'est de moins en moins vrai, mais ouais. Il y a cette culture là en Europe. Est-ce que les Américains sont comme ça aussi? Est-ce que comme un mec comme toi,
après 20,
mais qui viendrait pas d'Europe, qui signe Orlando,
il est traité à Miami.
Oui, c'est ça. Si t'as pas le choix, il se passe quoi?
Si tu vas mettre son veto.
Non, bah non. Bah, je pense que c'est quand même plus quelque chose d'européen.
Ouais.
Très clairement. Ouais. Après, vraiment, c'est les fans du Magic et les fans de Miami qui aiment bien se chambrer. Après, tu sais, dans une franchise, les joueurs ils viennent, ils partent. Donc voilà. C'est juste que sur le moment, quand tu les joues, bah, il y a cette animosité.
Toi, t'es attaché quand même à Orlando. T'as quand même souvent clamé ton attachement à Orlando.
Bah, moi, j'aime l'équipe pour laquelle je joue. Et comme Orlando, ça fait un bout de temps que j'y suis maintenant, bien sûr, j'aime cette ville.
C'est comme t'as aimé.
Evan Fournier dans Buzzer Time. On est également avec Axel Toupan. Ça te dit quoi quand t'écoutes tout ça, Axel?
Oh, la NBA.
Bah, lui, le derby, ça le fait rigoler.
Non, la NBA.
Les derbys en Grèce, c'est très, 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 très chaud, quoi.
Ouais. Non, ceux-là, c'est clair, c'est du haut niveau et ouais, toute la semaine, enfin, à partir du moment où j'ai signé là-bas, on a fait que m'en parler et c'était le match à part.
T'as eu peur, un peu?
Non, non.
T'es physique? Non, c'est pas.
Non, pas comment.
T'as reçu des pièces?
Par rapport à la Serbie, tu parles?
Oui.
Non, c'était pas comme ça. Ils se sont calmés un peu, mais après, il y a beaucoup de sécurité aussi. Parce que par le passé, il y a eu pas mal d'incidents. Donc, ils rigolent pas trop avec la sécurité, mais on était à l'abri.
Axel Toupan, Evan Fournier, l'actu de la NBA, c'est tout de suite. Chacun va choisir la série dont il a envie de parler, comme la semaine dernière. Mais d'abord, on va faire le point sur les directs. Il y a 11 points d'avance pour Monaco, désormais face à Pau. On est dans le deuxième quart-temps. Et puis en Ligue 2, Lorient au cercle. Xavier Grimaud, le temps, le score.
On joue depuis 28 minutes, 0-0 et un poteau de chaque côté. Il y a eu Philippe Poteau tout à l'heure et c'est Philippe Essad, le Lorientais, qui a touché le poteau également. 0-0.
Allez, l'actu de la NBA, on est en plein play-off et c'est à ce moment-là de la saison, évidemment, qu'on se régale le plus. À tout de suite, c'est Buzzer Time sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Buzzer Time. Pierre Dorian.
Buzzer Time sur RMC tous les lundis soirs, 21h, 22h avec Frédéric Veil, Stephen Brun, David Cosette et ce soir donc Evan Fournier et Axel Toupan. Ça va messieurs?
Très bien.
Je vois Axel que t'as quand même un œil sur Monaco Pau, hein. Même ouais, si tu écoutais Evan tranquillement.
T'es en train d'écouter tes futurs adversaires, non?
Non.
On va en parler tout à l'heure. Parce que on sait jamais, il pourrait finir la saison en JP Elite, Axel. Je sais pas, hein, je lance un truc comme ça, on verra tout à l'heure. Hein.
Il est né où?
Pas de réponse.
Il est né où, Axel?
À Mulhouse.
À Pau.
Ah, mais c'est pour ça.
Ah, voilà, professionnel. La
presse en est sûre. Ah, my god.
Il a commencé basket à Pau. T'as commencé à Pau?
Non, même pas. J'ai commencé à Toulouse.
Pourquoi je t'avais avec
Parce que
aux Spacers. Ouais.
Tu comprends pourquoi tu perds tout le temps, toutes les semaines au contrat?
Tu as l'explication?
Allez, avant de parler avec Axel, c'est l'actu de la NBA toujours.
RMC. Buzzer Time.
Oh, fuck my James! LeBron James!
Les news NBA.
Alors, chacun d'entre vous a choisi sa série de playoffs dont il a envie de parler. Mais d'abord, moi, je veux que vous me parliez de Damian Lillard, qui a fait un truc exceptionnel au premier tour des playoffs, avec un shoot au buzzer, avec 50 points dans le match décisif. Et en France, Damian Lillard, c'est pas le même niveau de réputation qu'un Kevin Durant, qu'un Stephen Curry. Est-ce que c'est un All-Star sous-estimé, Damian Lillard, les gars?
Clairement.
Oui, complètement. Ouais. Mais moi, j'aimerais savoir aux États-Unis quel est le ressenti, parce que je crois que même aux États-Unis,
France,
il n'a pas été. Hein, c'est ouais, ça, il n'a pas été.
Souvent snobé, hein, aux States.
C'est ça, il a toujours.
Après, parce qu'il joue à Portland. Il joue à Portland.
Marché.
C'est le marché, trop petit pour.
Ouais, mais regarde, tu nous parlais de Kawhi tout à l'heure. Kawhi, c'est quand même un joueur de cette dimension-là, qui est
champion NBA.
Oui, d'accord. C'est peut-être juste ça, mais.
Champion NBA. Ça classe un homme. Après, Damian Lillard, sur un poste de jeu aussi, il y a une concurrence monumentale, surtout dans la conférence Ouest. Mais enfin, Evan, il s'est
coupé. Après, Kawhi, il n'est pas mis non plus au même niveau et il n'est pas surmédiatisé. Hein.
Oui.
Alors déjà de base, c'est un gars qui est discret, mais clairement, Kawhi, il est en dessous de toutes les autres superstars.
En termes de notoriété, tu veux dire?
Ouais, Kawhi, il n'est pas considéré comme une superstar.
Et alors, Damian Lillard, en termes de jeu pur, en termes de basket pur, vous le classez où par rapport aux autres All-Stars?
Top 5 meneur NBA.
Ouais, facile. Oui. Facile.
Top 5 meneur NBA.
Top 3, je dirais.
Kyrie Irving et Damian Lillard, peut-être, non? Ça te va, ça?
Moi, je mets Damien devant Kyrie même.
Mais Damien devant Kyrie?
Ouais. C'est un meilleur leader. C'est ça. En fait, c'est ça son point fort. C'est que c'est un leader exceptionnel. C'est-à-dire que son lieutenant, c'est CJ McCollum, mais derrière, il y a pas grand monde, quoi, quand même. Enfin, c'est des bons joueurs.
Des bons joueurs, mais pas de, oui.
C'est des bons joueurs, mais
l'injustice, quand même, c'est que quand tu vois qu'il colle 4-1 à OKC, où il y a un Russell Westbrook, qui, pour le coup, fait partie un peu de cette caste.
Pour le coup, moi, je dirais que c'est dans l'autre sens. C'est un peu surcoté.
Oui, voilà, peut-être. En tout cas, peut-être un peu trop individualiste comme joueur. Peut-être qu'il a du mal à s'intégrer dans un collectif.
Manque un peu de cervelle sur certaines lectures. Parce que là,
j'aime bien
formule. Parce que lui, fait partie. Ouais, pour
il est considéré dans l'élite, que finalement, il garde des plus forts, peut-être.
Tiens, tu prends lequel des deux dans ton équipe?
Ça dépend, pour faire quoi?
Gagner un titre.
Ah bah, tu choisis en premier.
Là,
t'as un basket à faire, tu choisis en premier. C'est les deux meilleurs joueurs. Ouais.
Sur un playground?
Non. Ah, t'es relou, tu veux pas répondre à la question de David parce que
tu sais que j'ai raison quelque part.
Tu sais quoi?
Russell Westbrook a quand même battu un record historique détenu par
Donc tu prends qui toi dans ton équipe pour répondre à la question de David?
Toute sa vie, mais moi je prendrais quand même Daniel Lillard pour gagner.
Enfin, pas sûr que les deux à la fin ils aient une bagouze.
Vous abusez quand même, vous faites passer Westbrook pour une pipe quoi.
Non, pas une pipe. Non, Evan. Non, on dit juste comme je suis d'accord avec Stephen que parfois il a pas de cerveau, qu'il joue pour sa gueule, que t'as l'impression que toute sa vie il sera en guerre contre la terre entière et qu'il sera tout seul à la fin de sa carrière et qu'il aura gagné. Bien sûr qu'il y a des qualités incroyables.
La série, la seule qui n'a pas commencé dans ces demi-finales sur Portland-Denver, qui est votre favori, juste en un mot comme ça.
Je crois que Denver, avec l'avantage du terrain, ils vont
Denver
gagner.
Pour toi, Evan.
Il y a encore un match 7, moi, pour les Nuggets. Hein.
Ouais, très bien. Il y a eu un but entre Lorient et Auxerre, Xavier Grimaud.
Non, c'est pas Philippe Poteau, et c'est plus qu'un but, c'est un but absolument magnifique, l'ouverture du score auxerroise, la frappe de 35 mètres de Kenji Boto, jeune arrière-droit d'Auxerre, il est pas attaqué. Il tente sa chance à 35 mètres, la frappe rectiligne qui finit pleine lucarne. 1-0 pour la JOCR. Il reste 10 minutes avant la pause.
Alors David, je te donne la parole parce que la grosse série a commencé quand même. J'ai la grosse série, celle qu'on attend, en tout cas Golden State Houston. Et peut-être un premier match un peu décevant pour le coup.
Un petit peu décevant.
Victoire de Golden State, je me rappelle. Hein.
Ouais, effectivement, avec une équipe de Golden State qui perd pas mal de ballons, l'équipe de Houston qui voit James Harden shooter à 30%, il fait 4 sur 16 à 3 points et malgré ça, ils sont tout prêts. Donc je m'interroge, mais d'un autre côté, quand c'est pas Durant qui en ce moment est juste hallucinant de talent, on se dit que Golden State, il y aura un match où c'est Klay Thompson qui fera un carton, il y aura un match où c'est Stephen Curry qui d'ailleurs a mis un panier important à la fin. Donc je pense quand même que même s'ils ont souffert sur le match 1, qu'ils seront au-dessus par rapport à ça.
Un problème d'arbitrage, je sais pas, en tout cas il y a une polémique d'arbitrage sur les chutes de James Harden.
L'image que tout le monde a vue, tout ça.
Oui, j'ai ses jambes en avant. Pour quelqu'un qui joue en NBA justement, qu'est-ce que t'en penses toi,
Evan?
Est-ce que l'arbitrage change entre les régulières et les playoffs?
Est-ce que quand tu vois les Warriors, tu as tendance à dire ils sont un peu protégés par l'arbitrage ou pas?
Non, moi que James Harden réclame des fautes, ça me fait rire. Franchement, c'est
on lui donne tout déjà.
Mais non, mais sur l'action, il plonge. Enfin,
il y a eu plusieurs actions. Il y a là Chris Paul qui met le 3 points alors qu'il y a faute.
Franchement, après, de toute façon, des erreurs d'arbitrage, il y en a, mais Franchement, j'ai pas trouvé, que le match était mal arbitré ou que c'était vraiment flagrant, quoi. Non, moi,
alors, si tu vois gagner cette série, toi, Evan?
Gagner?
Ouais.
Bon, c'est Golden State.
En fait, Houston, déjà en se basant sur l'affrontement de l'année dernière, est quand même parti dans un délire en disant, un petit peu comme le Panathinaikos en Grèce, où ils disent, en gros, les arbitres sont contre nous. Ils ont fait tout un dossier qu'ils ont donné à l'NBA en disant, regardez, telle situation, etc. Franchement,
ouais, c'est une blague.
Bah oui, je suis un peu d'accord.
Alors, Fred, t'as choisi de nous parler de Toronto-Philadelphie. Pour quelle raison?
Toronto, parce que justement, on en parlait. Ils ont beaucoup d'expérience, des joueurs de grand talent. Ils ont éliminé le Magic assez facilement. Malheureusement pour toi, oui, avec Pascal Siakam qui sera certainement le
Siakam Pascal.
Excellent, Stephen. Putain, t'as mis du temps à te mettre en route là.
Le joueur qui a le plus progressé de la saison, Kawhi Leonard, qui est un vrai leader, qui a une vraie expérience. Moi, je vois bien cette équipe de Toronto s'imposer assez facilement contre ces jeunes et fragiles Philadelphie 76ers.
Tu vois ce qui t'attend, Axel, hein. C'est quand, une fois qu'il est chaud, une fois qu'il est lancé, Stephen, il est inarrêtable.
En fait, je parlais de Joel Embiid qui a eu un problème de genou et qui a une gastro ce soir. C'est, en fait, c'était pour par rapport à ça, plutôt fragile. Alors, fragile, c'est une super équipe, bien
Oui, alors, est-ce que c'est pas ça leur problème majeur de toute façon à Philadelphie, c'est que t'as l'impression qu'Embiid, faut le mettre dans du formol après chaque match, quoi.
Il a quand même fait une saison complète.
Non, mais bien sûr. Mais il est tellement fort, justement, que bah s'il peut pas être tout le temps à 100% sur des playoffs, c'est quand même handicapant. Ça complique.
C'est handicapant.
La mission de son
après, 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 après,
après, ils ont quand même des joueurs. Ils ont Ben Simmons, ils ont Jimmy Butler, ils ont Tobias Harris. Ils ont quand même une équipe. Les Sixers, ils ont ce bon Boban qui sur 15 minutes est capable de te mettre 10-15 points. Pour moi, cette série, elle est pas non plus cadeau pour Toronto, même si je pense que ce soir ça va faire 2-0. Mais les Sixers à domicile, ils sont capables de revenir à 2-2. C'est mon avis, c'est mon opinion.
Et par contre, toi qui es un spécialiste, quand un gabarit comme Embiid a une gastro,
il a mal Embiid. Okay,
très bien.
C'est ce genre de soirée, d'accord.
Tu sais. Stephen, alors t'as été impressionné par les Celtics.
Impressionné,
la maîtrise défensive.
Le plan de Brad Stevens, qui est peut-être un des meilleurs coachs NBA actuellement, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Brad Stevens sur défendre sur Giannis Antetokounmpo, à savoir mettre beaucoup de mecs dans la raquette, et puis avec Al Horford qui était la kryptonite de Joel Embiid et qui hier était devenu la kryptonite un peu de Giannis Antetokounmpo, même si ça reste que sur un match. Après, j'ai trouvé Giannis forcé un petit peu manqué de lucidité. Il aurait peut-être plus servir ses shooters extérieurs. Après, ils ont pas trop mis dedans, et puis l'absence de Malcolm Brogdon, pour moi, qui est très préjudiciable. Ça s'est pas vu sur le premier tour parce que les Pistons est une équipe quand même un petit peu amoindrie avec Blake Griffin blessé, mais sur un deuxième tour des playoffs, Malcolm Brogdon et sa science du jeu peut être importante. Je hâte de voir comment Giannis Antetokounmpo va s'ajuster et comment Mike Budenholzer va s'ajuster sur cette défense des Celtics.
Alors justement, je te coupe, Stéphane, mais comme toute l'année, t'as dit qu'il est absolument inarrêtable. Apparemment,
je savais pas qu'un match à 22 points, à 7 sur 22, c'était le mec était mauvais. Je savais pas. Merci David.
Non, il a dit qu'il était pas.
Est-ce que Stéphane, tu peux ne pas te sentir agressé juste quand j'essaie de relancer le débat.
C'est vrai, c'est fou cette agressivité.
Je sais pas, tous les fois qu'il a fait des mauvais matchs,
c'était juste pour relancer le débat, pour mettre en valeur les matchs. Voilà. Mais je peux aussi ne plus rien dire, c'était juste pour voilà, il n'y a pas de problème. Bon,
repose ta question, David, pose-la à Fred ou à Evan.
Voilà, c'était juste pour dire.
Pour ceux qui sont pas fans de Superman, parce que tu sais que ça commence à dater, la kryptonite, c'est-à-dire c'est l'arme anti-Embiid, anti-Antetokounmpo en l'occurrence. Evan, t'as été surpris par la performance de Boston sur ce match 1 face à Milwaukee?
Non, pour être honnête, je m'y attendais même.
Les faux quatrièmes, hein, les Celtics.
Ouais, clairement. Ouais. Les Celtics, c'est vraiment l'équipe. C'est une équipe de playoff, franchement. Et puis même. Alors Milwaukee sont très forts. Je pense quand même qu'ils vont faire un match 2 vraiment de haute qualité. Je pense qu'ils vont gagner le match 2, mais le problème c'est que ils sont très dépendants de Giannis. Et le problème avec Giannis c'est que il peut pas mettre de tir à l'extérieur.
Il fait 3 sur 5 hier.
Ouais, mais il est pas dangereux. C'est ça le problème. Et ils vont fermer la raquette, ils vont fermer tous les espaces, ils vont le forcer à faire des passes et à faire des 1 contre 3, et ça va être compliqué pour eux. Et c'est moi je me suis fait taper dessus il y a deux semaines parce que je disais que c'était compliqué de mettre un MVP quand c'était pas lui qui avait la balle sur les fins de match parce que la vérité c'est que c'est Chris Middleton qui prend les derniers
tirs. C'est-à-dire tu t'es tapé dessus parce que t'as dit ça publiquement, ça t'est revenu dans la gueule.
Bah après je m'en prends là.
Mais toi généralement tu dis ce que tu penses.
Oui voilà. Non mais voilà, moi c'est ce que je pense. Je pense que c'est compliqué quand ton meilleur joueur peut pas mettre de tirs extérieurs et
donc pour toi Yannis Antetokounmpo n'est pas MVP de la saison.
Non, moi je mets James.
Tu mets James Harden.
Ouais. Très bien. Ouais. Et donc, je pense que ça va être compliqué pour Milwaukee.
Et alors, dans le cadre de la Coupe du Monde, ça veut dire que Antetokounmpo, il y a quand même moyen de le stopper aussi avec la Grèce.
Après, il faut d'abord avoir une très bonne équipe défensive. Et après, vraiment la clé avec les Bucks, c'est faut pas perdre de balle, faut pas prendre de tir rapide et faut pas faire de faute parce que tu perds la balle, c'est deux points derrière parce que sur transition,
ça va trop vite.
C'est-à-dire que lui, tu lui donnes de l'espace, c'est fini. Milieu de terrain, il prend un dribble, il commence son layup dans la raquette et bah t'es obligé de faire faute. Et donc voilà, il faut absolument garder le contrôle de la balle, pas la perdre, mettre ses tirs et jouer sur demi-terrain. Et là, peut-être que t'as une chance. Hein.
La série sur le papier excitante, hein, en tout cas assez indécise. On est d'accord. Hein. Là, les demi-finales sont très équilibrées.
Meilleure équipe de la NBA, les Bucks hein, cette année. Meilleure saison régulière.
Axel, tu suis tout ça de près ou de loin, toi ?
Non, de près, je regarde.
Alors, est-ce que ton équipe favorite, c'est par exemple Denver parce que t'as joué là-bas ou pas du tout parce que t'es passé juste de manière rapide et donc.
Non, je suis encore parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont restés, ouais. Mais là je pense à l'Est, moi je suis plus Boston, et à l'Ouest j'espère Houston, mais bon, si je devais parier mon argent, je mettrais quand même sur Golden State.
Alors quand on est basketteur professionnel en Europe, on fait comment pour suivre la NBA là ? C'est des nuits blanches ou tu fais quoi ?
Non, bah maintenant il y a le League Pass, tu peux regarder les matchs. Hein. Tu peux...
Ah, y a pas la même excitation quand même que quand t'es en direct ou en différé. Oh.
Non, après souvent je regarde des highlights ou des parties de match quand c'est des matchs que j'aime bien et puis voilà, maintenant de toute façon avec les réseaux sociaux tout ça, il y a les actions partout donc c'est cool.
Toi Evan, t'es à fond?
Bah ouais, hein. Moi je regarde les games hein, très clairement. Hein. Puis vu que je suis aux États-Unis, c'est à 19h.
Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs quand t'es en France comme ça là? C'est quoi ton programme là?
Bah là je suis dans le décalage, c'est incroyable, j'arrive pas à dormir. Mais écoute, je me suis fait Game of Thrones hier, tranquille.
En arrière.
Ouais, ouais. MVP.
Spoiler pas, hein, parce que tout le monde voit pas tous les épisodes tout de suite. Hein.
Petit spoiler. Mais non, voilà. Les games.
On est avec Axel Toupane et Evan Fournier. Il y a du direct en ce moment. Monaco déroule face à Pau 43-27. On arrive bientôt à la mi-temps. Il reste 1 minute 45. Et puis en Ligue 2, on suit Lorient Auxerre avec Xavier Grimaud.
Il reste 1 minute 30 avant la mi-temps. C'est Auxerre qui mène un but à zéro. Le but absolument splendide de Kenji Boto. Auxerre tout proche de doubler la mise dans la foulée avec Yatara. C'est passé à côté. Lorient est un petit peu dans le dur. 1-0 pour Auxerre. On est bientôt à la fin de la première période.
Buzzer time. Frédéric Veil, Stephen Brun, David Cosette. On revient tout de suite pour le moment préféré de la semaine de Stephen, le 1 contre 1, c'est parti.
RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
C'est reparti pour Buzzer Time, 21h30. On est avec David Cosette, Stephen Brun, Fred Weiss et nos deux invités, Axel Toupane et Evan Fournier. On est dans quelques secondes à la mi-temps de Lorient Auxerre. Et c'est Auxerre qui mène un but à zéro. Même configuration en Jeep Elite. 47-30 pour Monaco face à Pau à 45 secondes de la mi-temps. Le 1 contre 1, c'est parti.
RMC, Buzzer Time. Buzzer Time. Le 1 contre 1.
Axel, Evan, l'actu du basket français. Alors c'est tous les baskets français, hein. C'est Pro A, Pro B, Ligue féminine, Français de l'étranger, la NBA. On dit la Jeep Elite, bien entendu, Stephen. Excuse-moi pour le sponsor. Tu croques, non? Et ton, bagnole, un truc. Donc il y a une machine qui s'appelle Stephen Brun. Le défi c'est de le faire chuter chaque lundi, mais il est très très fort. Hein. On est 5, donc on va faire une équipe de 3, une équipe de 2. On va pas faire un vrai 1 contre 1, ce serait trop compliqué.
On va faire une équipe de 4.
Donc pour savoir. Pour savoir qui d'entre vous va jouer avec Stephen, j'ai une question toute simple. Ivan, est-ce que t'es capable de me donner le nombre de sélections d'Axel en bleu? Le plus proche de la bonne réponse sera avec Stephen.
15.
Et Axel, le nombre de sélections d'Ivan en bleu?
Non, 12.
Tu dis 12?
Ouais. Même moi je sais pas. Alors.
Si t'as calculé dans ta tête le nombre de matchs à jouer.
Vas-y, au hasard si tu sais pas, hein.
42.
Allez, c'est 12 exactement pour Axel. Donc de
toute façon, il a vu la réponse. Là.
De toute façon, j'avais tué le game d'entrée. Donc Axel, tu vas jouer avec Stephen. Evan, tu vas jouer avec Stephen.
Non, en plus. Non,
donc on a Steve et Evan contre David, Fred et Axel. C'est bon pour tout le monde.
Attends, j'ai combien de sélections là?
54.
Et Evan, par contre, je fais vraiment la gueule si on perd.
Il peut devenir vraiment ouf. Hein. On a assisté à des scènes bizarres, hein, juste sur une question toute pourrie de okay. Sur la Pro B, par exemple. Tu vois.
Okay.
Allez, question de rapidité pour commencer. Ok, Fred, t'es dans le game.
Bah, je suis à fond là.
Ok, qui est le dernier Français en lice en playoff NBA?
Gershon Yabouzélé.
Alors, c'est quoi cette hésitation de ouf?
J'allais dire Tony Parker, moi.
C'est l'habitude.
Ouais, grave. Gershon Yabouzélé avec les Boston Celtics qui a joué 2 minutes 30 je crois premier match
time, ouais.
Contre Milwaukee. Bah,
c'est le tranquille les gars. Il vous a rien fait, laissez-le.
Ça fait 1-0 pour Steve et Evan. Qui a déclaré si on joue comme ça en mettant la même intensité à chaque fois, je pense que l'on va gagner tous les matchs.
Mitrovic?
Non.
Laurent Lenya? Vucevic?
Non.
Obradovic?
Vous n'êtes pas déjà vous êtes même pas dans le pro championnat déjà.
Ah oui. Le championnat.
Qu'est-ce que t'as dit?
Valérie de Mauri, le coach de Lyon.
Kyrie Irving?
Non.
Le coach de Boston?
Non.
En fait, c'est un lien avec des Français.
Steve Kerr?
Non. C'est pas du tout NBA. Hein.
Thibaut Petit, le coach de Montpellier.
Non, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est un club qui a obtenu une victoire très importante.
Castano.
Tu es prêt.
Jean-Marc Couteur.
Non, c'est David le plus proche. Ah. Si on joue comme ça, en mettant la même intensité à chaque fois, je pense qu'on va gagner tous les matchs.
Jean-Sylvain Nyangé de Orléans.
Excellent! Il est là! Alors là franchement, c'est fort. Là, c'est fort. Qui était presque David.
C'est merci.
Il fallait creuser. C'est là où tu manques d'un côté tueur, tu vois. Requin, quoi. Tu lui fais une passe d'ess et il dunk, Stephen, quoi.
D'accord.
Orléans qui a battu Roanne et qui a battu Roanne. Plus 13, ce qui veut dire qu'ils ont compensé l'écart du match aller, ce qui veut dire qu'ils peuvent encore monter directement. C'est une surprise de voir Orléans mettre 13 points à Rouen ou pas?
Non.
Rouen, qui est le leader de Pro B quand même. Hein.
C'était surtout une surprise quand ils ont lâché des matchs qu'ils n'auraient jamais dû lâcher contre le dernier de la classe notamment, et ça fait que là ils sont en difficulté alors qu'ils étaient favoris.
Je veux dire qu'ils devraient être plus près.
Oui.
Ils sont plus qu'à un match du coup.
Ah ouais,
donc ils peuvent encore monter directement. Donc
ils
ça fait 2-0.
Quand même deux fois contre le dernier du championnat.
Pour l'équipe Stephen, Evan, Axel, ça commence à le chauffer. Hein?
Ah, il est rapide.
Pareil, question, rapide. Je pense, de rapidité, je pense. Si vous avez bien travaillé, messieurs, qui est le meilleur marqueur de cette journée de JP?
Carvel Anderson.
Oui. Carvel Anderson avec Ravine.
Et on le sait, mais je peux pas le dire aussi rapidement, moi.
Ouais, c'est ça qui est dur. 39 points.
12 sur 22 à 3 points, record de l'histoire de la Ligue nationale de basket.
116 à 85.
À 2 points, il a mordu.
Donc ça fait un troisième point pour Steve et Evan. Alors, donc dans ce match, il a effectivement battu le nombre de paniers à 3 points, 12 shoots primés. Ce record avant était co-détenu. Est-ce que vous êtes capable
de Miku
Magouf Nagel.
J'ai dit les 3.
Franchement, je pense que c'est David le premier. Ouais, franchement là.
On est bon.
Non, mais c'est pas cadeau, c'est comme ça. Je pense qu'il a dit les 3 en premier le plus vite. Donc Eric Mikou, Freddy Hufnagel, Mike McGee. Ça, pour le coup, tu t'es pas fait prendre.
Non.
C'était sa génération.
Voilà. Donc ça fait 3 points, hein. On est d'accord, Stephen.
Ça fait quoi? 3 points, toi.
Une question à 3 points.
Ah oui, c'est
Evan, rebelle-toi.
Bon, ça fait 3-1 pour l'équipe Steve et Evan.
Evan est sidéré parce qu'il se dit, il y a un mec, il est encore plus gagneur que moi.
Encore plus ouf, non? Surtout. Alors, qui a déclaré, messieurs, je voudrais jouer pour une équipe de bas de tableau qui ne joue pas les
premiers. C'est Koudoumbouya.
Mais même, je sais plus quoi faire. Ah, ouais. C'est Koudoumbouya. C'est Koudoumbouya. Il a dit ça.
Dans le populaire.
En parlant évidemment de la draft, sachant qu'il devrait être drafté très haut, a priori.
Il a dit quoi? Parce que du coup, on n'a pas.
Alors, il a dit.
Je suis d'accord. Il a dit qu'il veut jouer dans une équipe qui joue pas les playoffs.
Il a dit, je voudrais jouer pour une équipe de bas de tableau qui ne joue pas les playoffs. Faut expliquer cette déclaration parce que
c'est une déclaration relou quand même, hein.
Lui, il se projette sur son cas personnel.
Plus t'es drafté haut,
plus la probabilité
d'être une équipe qui joue le bas de tableau et faire les playoffs.
L'idée, c'est d'avoir beaucoup de temps de jeu tout de suite dès sa première saison.
C'est vrai que ça peut sembler bizarre d'entendre ça, de dire, le mec, il veut pas faire playoffs alors que c'est le côté sympa du truc. Mais c'est sûrement parce qu'il se dit, dit, je vais plus facilement faire ma place.
Si dans il dit comme ça, j'aurai du temps de jeu, en fait.
Non, mais après,
il se trompe, tu penses, Evan, de voir ça comme ça?
C'est pas qu'il se trompe, c'est qu'il connaît pas.
Oui, c'est pas forcément lié à ça.
Non, c'est que je le connais. Enfin, pas. Ce qui est le plus important dans sa première année, c'est d'arriver dans une bonne situation, d'arriver dans une bonne franchise qui va prendre soin de toi, qui va vraiment te faire progresser, avoir un bon coach, avoir un bon système. Et des fois, quand t'arrives dans des équipes qui perdent, c'est un peu la merde.
C'est pas forcément lié à la situation sportive de l'équipe.
Les Suns depuis X années, c'est cata.
Voilà, c'est exact. C'est un
exemple que t'as en
tête. Superbe exemple, ouais. C'est un superbe exemple. Aucune stabilité, ça change de coach chaque année. C'est pas forcément vrai. Des fois, tu vas arriver dans une équipe, dans une bonne équipe où va y avoir un trou à un poste, au poste 3. Et il va y avoir un renouvellement d'ici deux ans.
Le petit laiton qui était au Barça, Kouroux, là, qui joue à Brooklyn, il est arrivé à Brooklyn, il a pas joué de l'année dernière avec le Barça, il a trouvé son spot.
C'est une question de situation plus que vraiment de tomber dans une mauvaise équipe.
Alors, est-ce que vous êtes étonné qu'il soit annoncé aussi haut dans la draft NBA, c'est Kudumbuya?
Non.
Bah, non.
Ah non, potentiel.
C'est quoi ses qualités? C'est quoi, comment se fait-il qu'il
passe? Il a le jeu pour la NBA, parce qu'il est d'abord super athlétique.
2m4, 1m de détente, peut défendre sur les positions.
Même il a un bon
tir.
On sent qu'il progresse, on l'a vu progresser d'ailleurs sur son jeu extérieur.
Il est meilleur pour le foot,
ouais.
Alors, on profite pour dire un mot quand même de la grosse victoire de l'ASVEL à Limoges, 85-74, Fred.
Oui.
Grosse perf quand même de l'ASVEL, hein.
Perf défensif, parce que c'est vrai que défensivement on a vu l'ASVEL un peu en difficulté sur les quelques dernières semaines, ça va un peu mieux, et il fallait bien ça, parce qu'on sait que Limoges sur les derniers matchs c'était plutôt bien offensivement, donc grosse perf de l'ASVEL.
Ils ont été impressionnants, évidemment, franchement.
Surtout sur le début de match, après c'est normal,
ça s'équilibre, parce que...
Mais sur le début de match, c'est incroyable.
Bon, David, Fred, Axel, c'est maintenant ou jamais, il me reste assez de questions pour que vous en fassiez la tendance. Qui a déclaré on reste positif malgré tout, on a déjà gagné là-bas.
James Harden.
Il y a un petit piège parce que je vous ai cité la phrase exacte. Je l'ai réécouté. Hein, c'était de l'audio, mais c'est une faute de français. Non. Enfin, il y a un truc bizarre.
Olivier Lafargue, le coach de Bourges.
Non, mais t'es pas loin.
C'est Romuald Yarno, le coach de Charleville Mézières.
En tout cas, elle aurait dû dire on reste positif malgré tout. Marine Johannes. Voilà. Pourquoi elle a dit ça? Parce que Montpellier est allé gagner à Bourges. Alors Bourges quand même qui est très diminué. Hein. Bourges qui avait 6 joueuses, 7 joueuses.
Élodie Godin, rupture partielle du tendon d'Achille. Et Sarah Michel, fin de saison, parce qu'elle a un problème au genou, je crois.
C'est possible ou pas?
C'est compliqué.
Vu l'état des troupes, ça paraît compliqué, effectivement.
Ouais. Donc ça fait 5-1 pour Steve et Evan. T'es tombé dans la bonne franchise, je crois.
Très facile. Bonne équipe de draft.
Tiens, Culture Musicale, qui vient de sortir un album de rap intitulé Royalty?
Kobalade.
Vous ne l'avez pas, celle-là?
Un album de rap, Damien Lillard?
T'as dit qu'il vient de sortir?
C'est en France.
Hein?
Qui vient de sortir?
Ouais. Le 5 avril.
Ah, donc c'est un rapport avec un basketteur français.
Pas français, mais du championnat de France.
Zach Wright?
Vous l'avez pas, celle-là?
Zach Wright?
Alors, il s'est illustré ce week-end, hein. C'est pour ça que j'ai choisi.
Illustré ce week-end?
J'ai vu ça dans la presse locale.
Carvel Anderson?
Non. Mais c'est il a été MVP de son match.
MVP de son match?
Ouais.
MVP
du match.
Match.
Royalty. Entre.
Royalty.
Cholet et Le Portel.
L'un de parenthèse.
Non.
L'intérieur, là.
Oui, Franck Hassel.
Franchement, j'ai presque envie de le donner à David qui n'a pas sorti le nom, mais Franck Hassel, il fait du rap.
Vous
saviez pas? Ouais,
Royalty. D'accord. C'est quel niveau?
Ça, je peux pas te dire, non.
Il est disponible sur Spotify, sur Deezer?
J'ai pas vérifié, mais moi, je suis pas spécialiste. Donc, je me permettrai pas surtout de donner mon avis sur un album de rap, tu vois. Donc, vous saviez pas.
Tu peux donner ton avis sur l'album de rap de Tipeee, ou tu peux le donner sur...
Non, il y a Rudy Gobert va...
Maintenant, il y a prescription, c'est bon.
Attends,
Rudy Gobert va drop son album bientôt.
Mais arrête tes conneries.
Ça sort les
dossiers. C'est une info, ça, ou pas? C'est une vraie info?
C'est une vraie info.
Ah, ça va, je coupe de ouf,
moi.
Parce
qu'Evan,
t'es au courant? Evan, t'es au courant?
Écoute, moi, je sais qu'il a fait poser un studio chez lui, donc...
Mais non!
Ah, mais là, c'est une vraie info à creuser, là-haut.
Ah, je me fais déjà assez charrier avec Tony, j'espère qu'il va assurer, quoi.
Après, il a la voix, hein. Franchement, s'il a un peu de flow, ça peut...
Il fait lyrics aussi.
Ouais, franchement,
c'est comme un travail d'écriture, non?
Mais en anglais, nous, de toute façon, on s'en fout. Eux, ils comprendront, mais nous, on s'en fout, on fera semblant. Bon, on fait le décompte, ça fait 6-1, on arrête là ou quoi? Non, il y en a encore
deux. Ah, tous, il a sorti les doses.
Allez, rapidement, qui a déclaré, je pense que nous devons nous montrer ambitieux et viser une médaille.
Evan Fournier.
Mais pour cela, le camp d'entraînement et la préparation tout entière devront se dérouler à la perfection.
Valérie Garnier.
Par l'équipe de France.
Jackie Comer.
Il faudra que tout le monde soit en santé dès le...
Okobo.
Eli Okobo. C'est pour Axel.
Et là,
Qu'est-ce qu'il a dit?
Alors, dis-moi. Juste, la déclaration entière. Il faudra que tout le monde soit en bonne santé dès le début. Une compétition comme la Coupe du Monde est très intense. De nombreuses équipes ont manifesté leur ambition. Nous devrons être prêts physiquement, mentalement et collectivement. Moi, la question que je voulais vous poser, juste, c'est est-ce que Elio, il parle comme s'il y était presque déjà.
En fait, ça permet.
Il fait partie des joueurs.
Ça permet de se positionner. Ça permet de montrer qu'il est dedans, impliqué.
Motivé, voilà, on est d'accord qu'il n'est pas certain d'y être, Elio Kobo.
Non, il n'est pas certain d'y être.
Il n'est pas dans mes favoris.
Bah, pourtant, il n'y sera pas.
Il a son coup à jouer, de toute façon. Après, de toute façon, comment ça se passe, ça, c'est, on lui pose une question, il y répond. Hein. C'est simple.
Oui, mais alors pour le coup, j'ai regardé l'interview, il en a parlé de manière quand même impliquée.
Après, il y a une vraie interrogation, enfin s'il y en a une, derrière Thomas Hurtel.
D'accord.
Sur le poste de meneur de jeu. Est-ce que ça va être Andro Albici, est-ce que ça va être Franck Nilikina, est-ce que ça va être Théo Malédon, est-ce que ça va être Elio Kobo?
Franck Nilikina, avec la saison qu'il vient de vivre, il peut être appelé en équipe de France,
je pense. Bah, ça dépend ce que le coach veut.
Il est très complémentaire de Thomas Hurtel.
Un gros défenseur, pourquoi pas.
Alors on va en parler de l'équipe de France avec Axel et Evan. On va vous féliciter quand même messieurs, c'est une victoire sans appel. J'avais quand même juste, allez, une petite dernière juste parce que ça m'a fait marrer. J'ai gagné la Coupe de France, le championnat de France, le championnat d'Europe, champion NBA, mais bon, d'après
Boris Dio,
Boris Dio
avec la Coupe des Landes. C'est quoi la Coupe des Landes?
Coupe des Landes, c'est le championnat des Landes, l'équipe de National 2, je crois, qui s'affronte et la finale, c'est dans l'arène de Dax.
Allez, dans un instant, dans les coulisses de l'Olympiakos avec Axel Toupane qui est notre invité dans Buzzer Time. Félicitations Stephen Evans, c'est trop facile encore une fois. Vous allez y arriver les gars avant la fin de saison. À tout de suite, c'est Buzzer Time sur RMC.
RMC, 21h-22h, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time, votre rendez-vous basket du lundi soir sur RMC et RMC Sport News d'ailleurs. D'ailleurs, il faut absolument prolonger le plaisir à 22h30 sur RMC Sport 2, parce que dans Buzzer, vous aurez droit à la rencontre Fred Weiss, Juan Carlos Navarro. T'es allé le rencontrer à Barcelone, Fred.
Ouais, j'ai eu
super moment, super interview.
Ouais, il parle de 2-3 trucs intéressants, ouais, c'était plutôt très sympa, ouais.
Est-ce qu'il parle de la faute de Nico Batum?
Il en parle. Encore de Nico Batum, ouais, il s'en rappelle encore, hein. Ça l'a bien marqué.
Rendez-vous à 22h30 donc sur RMC Sport 2. C'est reparti en Ligue 2. Lorient toujours mené à domicile face à Auxerre, Xavier Grimaud.
Absolument, c'est reparti depuis 2 minutes en deuxième période. Toujours 1-0 après ce but magnifique de Kenji Boto. C'est peut-être déjà l'un début de la semaine, hein, dans le foot français. Cette frappe de 35 mètres en lucarne. Lorient qui va devoir se réveiller, en tout cas essayer de revenir dans la partie. 1-0, la 47e.
Et puis la mi-temps, 50-30 pour Monaco face à Pau en Jeep Elite. Ça va reprendre dans quelques instants.
RMC. Buzzer Time. Buzzer Time.
Pour tout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Mais moi je préfère perdre en se battant.
Locker Room.
Avec Axel Toupane, on vous emmène dans le vestiaire de l'Olympiakos, club mythique, mais alors club compliqué. Tu vas nous raconter tes mésaventures, Axel. Donc tu joues à l'Olympiakos, club qui a des ambitions, club qui fait un bon début de saison et puis qui rate la qualif pour les playoffs de l'Euroleague. C'est un peu parti en sucette. Toi, t'as quitté le club. Aujourd'hui, tu n'es plus lié aucunement à l'Olympiakos.
Ouais, je suis parti, mais je peux pas vraiment faire de commentaires sur la situation.
Et tu peux nous dire au moins pourquoi tu es parti ou pas?
Non, pas vraiment. Non.
Ah. Mais contractuellement, t'es encore lié à l'Olympiakos ou t'es plus lié?
Non, je suis libre.
Fais ce que tu veux.
Bon, alors, nous, on peut le dire. En tout cas, t'es parti parce que tu n'étais plus payé. Alors, si tu peux pas en parler, peut-être que David, tu peux nous raconter un peu le basket grec de ce point de vue-là. Ce genre d'histoire, on a l'impression d'avoir déjà entendu 20 fois.
On est surpris parce que autant on sait qu'en Grèce, c'est compliqué pour certains clubs et on pensait qu'Olympiakos était à l'abri de ça. Olympiakos, Pana, AEK, même à Salonique, PAOK, Aris, dans le passé, ils ont eu d'énormes problèmes.
Je confirme, j'ai jamais été payé, moi.
on est un petit peu surpris de voir qu'Olympiakos aussi est rattrapé.
Alors c'est quoi, c'est que des problèmes financiers ou c'est aussi une stratégie, une politique pour foutre la pression aux joueurs?
C'est pas des clubs qui donnent peut-être un premier mois de salaire et puis après t'es pas payé pendant 2-3 mois et après il y a le quatrième mois, ça retombe. Enfin moi j'ai ouï dire que parfois c'était comme ça même dans les très grands
Fred,
clubs.
Fred, toi ton expérience, ça s'est passé comment?
Moi mon expérience c'est que je suis arrivé, ils m'ont donné un chèque que j'ai posé dans une banque française et les mecs m'ont dit c'est un chèque en bois. Donc mon premier salaire
au poids, tu aurais dû voir.
Il était léger, effectivement.
Tu veux une anecdote culte? J'étais sur un match d'Euroleague, on arrive la veille à Athènes, et je vais voir un match d'un club moyen du championnat grec, où il y a un joueur français qui était dans ce club, et à la fin du match...
C'était qui?
Il joue le match. Au Panunios.
Exactement.
Ouais.
Pourquoi.
Voilà. Début des années 2000, peut-être.
Et. Un mec avec des pantalons trop larges.
Bon, il dit, oh là là, ouais, bon, je suis pas payé, tout ça, etc., machin. Il joue son match, et à la fin du match, nous, on l'attend pour aller dîner. Et à ce moment-là, il y a un grec qui arrive avec, genre, tu sais, un sac en plastique, genre Carrefour ou Cora, avec dedans plein de billets et des pièces, comme ça.
Moi, j'ai la même, hein. Quand j'ai joué le derby PAOK Harris, à la fin du match, ce mec est venu avec une mallette, il nous a donné l'équivalent de 5000 euros à chacun pour nous contenter, on n'était pas payé, mais on a eu cette prime.
Axel, tu peux pas en parler pour des raisons juridiques ou c'est quoi l'histoire?
Non, je peux vraiment pas en parler, donc
Est-ce que tu peux nous parler du sportif?
Sa négo.
Oui, du sportif, pas de problème. Non, bien sûr.
Qu'est-ce qui se passe? Mise à prix ou pire ou
peut-être qu'il leur dit que s'il parlait, il aurait pas sa lettre de sortie et ce serait compliqué s'il devait retrouver autre chose.
Comme quand t'es en égo avec ton entreprise et que t'es pas en...
Alors comment t'expliques que vous ayez raté cette qualif en play-off? Qu'est-ce qui s'est passé sur la fin de saison? Tout ça c'est lié ou pas?
Ce qui s'est passé, c'est que on a plutôt bien commencé. On a plutôt bien commencé l'année. Après, on a eu un gros trou d'air. On a eu pas mal de blessures aussi. Et sur la fin, ouais, on a dû un peu bricoler. Et il y a Zagris notamment qui est revenu en force. Et au final, on est passé à la trappe. On était ex aequo avec Zagris et Baskonia, mais au goal average, on est passé à la trappe.
Est-ce que tu as eu le temps de te régaler quand même? Parce que le basket en Grèce, c'est quand même la folie.
Non, bien sûr.
Malgré cette situation un peu spéciale, t'as pris du plaisir?
Non, bien sûr. Ça reste un grand club de super fans. On a quand même passé de bons moments, même si on a raté la qualif. Mais bon, j'ai eu la chance de jouer des gros matchs, de faire des bons matchs. Donc.
Enchaîner des gros coachs aussi. Hein,
aussi, bien sûr.
Sivicius, c'est plutôt pas mal. Comme
non, bien sûr, bien sûr.
Quelle différence entre Sharon Sivicius et David Blatt? Coach en NBA, on l'appelle.
Ouais. Bah on m'a posé cette question cette année. J'ai dit que c'était un petit peu Saras, c'était un petit peu le feu et David Blatt l'eau. Saras, on connaît, hein, il est très expressif, on va dire. Et David Blatt plus posé, plus tranquille. Donc je dirais, ouais, c'est ça la plus grosse différence entre les deux.
Avec Blatt, t'as pas peur qu'il t'en colle une physiquement, quoi.
Non, c'est ça.
Axel Toupane dans Buzzer Time sur RMC. On évoquait tout à l'heure les derbies, en tout cas Orlando-Miami. T'as joué un derby Olympiakos-Pana?
Ouais, plusieurs.
Ça donne quoi?
Non, c'est
impressionnant.
Ouais, c'est impressionnant surtout c'est là-bas.
Après, alors, je vous pose la question, Axel, est-ce que en championnat de Grèce, c'est comme en Euroleague,
c'est-à-dire
que les ça veut dire que les supporters de l'Olympiakos n'ont pas le droit d'aller au Pana et les supporters du Pana n'ont pas le droit d'aller à l'Olympiakos?
Ouais. En Euroleague et en championnat, c'est impossible.
D'accord.
Impossible.
Donc, c'est impossible d'avoir des supporters des
Non, c'est impossible.
Raconte-nous quand même cette anecdote où vous êtes parvenu à la mi-temps quand même.
Ouais, écoute, tu sais, ils ont des gros problèmes avec la fédération depuis longtemps, dans le sens où la fédération est pro Panathinaikos, c'est ce qu'ils disent, donc c'est l'année où ils ont décidé de faire quelque chose et ça s'est passé à ce match-là où c'est vrai que l'arbitrage, au bout de 10 secondes de jeu, on avait déjà deux ou trois fautes collectives, donc ils ont clairement essayé de nous envoyer un message.
Mais vous, joueur, vous aviez envie de revenir, vous avez juste respecté les ordres.
Oui, non, c'est ça.
Mais ça doit être frustrant quand même de se dire, putain, on peut
pas. Non, c'est frustrant.
C'est frustrant si l'arbitrage est trop sévère sur toi.
Alors, non, honnêtement.
Est-ce que vous avez suffisamment de recul, enfin pas de recul, mais est-ce que vous avez vu suffisamment de matchs pour nous dire si c'est de la paranoïa de la part de l'Olympiakos?
Je crois qu'il y a une guerre Pana Olympiakos, les deux se pensent lésés par la fédération, je sais pas, ils sont partis dans une sorte de parano, il me semble, les deux clubs. C'est mon avis.
Après, sincèrement,
tellement, c'est logique.
Ouais, non, ça c'est vrai, mais
c'est la guerre de celui qui est la plus grosse en fait.
Mais ce match-là, c'était, en étant réaliste, c'était impossible de gagner ou même de que le match soit serré, quoi. C'était
Axel, vraiment... toi, tu vas faire quoi là maintenant? Est-ce que tu peux finir la saison dans un club de Jeep Elite?
Là, je vais soigner quelques bobos et bien préparer pour les prochaines échéances.
Wow, ça veut dire que j'ai pas envie de répondre à la question.
Ouais.
Non. Global,
c'est quoi les prochaines échéances?
Réglementairement, tu peux signer comme joker médical quelque part?
Non, ça reste aussi à voir. Ça, j'ai même pas la réponse aujourd'hui, donc. Donc ça serait mentir de
qu'il allait se soigner, donc c'est non.
De te dire oui ou non.
Il a dit oui ou non.
S'il faut, tu devrais le prendre comme avocat.
S'il faut qu'il se soigne, c'est que c'est non, c'est tout.
Et c'est quoi les prochaines exigences? Donc l'équipe de France.
L'équipe de France, ouais. L'équipe de France, ouais.
Alors, équipe de France concurrence.
Seulement si t'es appelé, les jouer.
Alors, il y a quand même concurrence terrible pour cette Coupe du Monde. Ça serait quand même un atout ou un avantage de jouer cette fin de saison là.
Bon, après, il reste un mois de compétition, donc j'ai joué les 8 derniers mois, donc c'est pas comme si j'avais fait une saison blanche ou
j'ai l'avantage ou j'avais pas blessé aussi d'arriver en forme. Donc
ouais, voilà. Puis je vais aussi faire une très bonne prépa et bien préparé. Ouais.
Et après, il y a le sélectionneur qui est dans un club où il y a un mec qui vient pas de se blesser, mais qui est indisponible jusqu'à la fin de saison. Hein, ça peut être Nicolas Lang. Non, mais je dis, si il y a un joker médical quelque part, ça peut être à Strasbourg, par exemple.
Vous travaillez pour la LNB, c'est un peu ça, le truc.
Non, je pose des questions. Après, si tu veux pas y répondre ou si tu veux pas, il y a pas de souci. Hein,
j'ai vu ça, mais après, il s'est rien passé, donc pas grand chose à dire.
Bon, comment tu vois cette Coupe du Monde, là, équipe de France?
Bah, sans.
Toi, tu t'y vois? Tu sais que tu vas devoir gagner ta place ou tu t'imagines la faire, là? Quoi?
Non, je vais devoir gagner ma place, clairement. Après, si je suis appelé. Après, bah, de toute façon, il y aura une grosse équipe. Et, bah, que j'y sois ou pas, je pense que le plus important, c'est de décrocher une médaille et de se qualifier pour les Jeux. Et après, pour moi, bien sûr que je vais tout donner pour potentiellement faire partie de l'équipe.
Alors, en Grèce, comment ils voient l'équipe de France? Parce que je suppose que dans ta saison, t'as dû à un moment ou un autre parler de basket international. Non. Ils ont la chance d'avoir Antetokounmpo qui leur tombe du ciel. Peut-être pas, mais en tout cas, qui est un atout incroyable. Oui, quelle est l'image de la France à l'étranger? On fait peur toujours ou pas?
Oui, enfin, elle est très forte. Ça, c'est
partout. Tu parles pas encore de la gréquification en 2005 où ils nous ont.
Non, si, ils m'en parlent encore.
Sérieux? Ah oui, c'est vrai.
Ils en parlent. Ouais.
J'étais là aussi. Enfin, en fait, t'as tous les mauvais moments. J'étais là.
Non, ils en parlent, mais non. Bah, je pense que de toute façon, on a une nation qui est très forte. C'est un secret pour personne.
Eux aussi, hein.
Et eux aussi. Bah, ouais, aussi. Ils ont surtout un joueur d'exception, mais nous.
Ouais, puis après, Calathes, Lucas, je pense que ça joue un peu. Puis quelques babards dans la raquette, ça fait quand même une équipe.
Il y a combien de nations, David, qui peuvent prétendre au podium, là, sur cette Coupe du Monde?
À une médaille? Une demi-douzaine à minima, ouais. Ouais, je crois une demi-douzaine.
Pas plus?
Peut-être plus, non, Stéphane, quoi.
Evan, tu dirais quoi?
France, États-Unis, Espagne, Serbie, Australie. Grèce, Australie, les premières auxquelles on pense. Lituanie, je pense, c'est un peu en dessous.
Canada, non?
Canada, ils ont peut-être pas l'expérience commune, tout ça, je sais pas. Canada.
Evan, tu vois qui?
Canada? Je sais pas.
C'est une question compliquée à répondre parce qu'il y a toujours des équipes qui se révèlent.
Ouais.
Et il y a toujours des équipes qui sont dans les favoris qui vont décevoir, donc nous, quand on finissait troisième, personne nous mettait là. Personne ne mettait à cette place. Nous, depuis le début, on y croyait. Enfin, voilà, on était un peu l'équipe surprise. Les Serbes, pareil, ils finissent vice-champions du monde. Personne n'y croyait. Je me rappelle, nous, on avait fini troisième du groupe. Les Serbes avaient fini quatrième. Et au final, on se retrouve à jouer la demi-finale ensemble. Donc, sincèrement, c'est
bien. Et puis c'est très tôt aussi. On ne sait pas qui va venir. Oui. Les joueurs NBA vont vouloir venir. Tu parles de l'Australie, qui peut être une équipe exceptionnelle, mais s'il y a des mecs qui viennent pas, ça devient.
Evan Fournier, Axel Toupane, merci beaucoup d'être venu dans Buzzer Time ce soir. Un œil sur Monaco Pau, 61-43, donc à la moitié du troisième quart-temps, et toujours 1-0 pour Auxerre. À Lorient, un match que vous allez suivre dans l'after avec Gilbert Bribois. Merci beaucoup, messieurs.
Merci à vous. Merci.
À la semaine prochaine pour Buzzer Time, 21h. Et puis, vous avez rendez-vous, je vous le rappelle, avec Juan Carlos Navarro à 22h30 sur RMC Sport 2 dans Buzzer.
RMC Buzzer Time.